Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite étude hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre paracha Tzav. Paracha Tzav, alors c'est également Shabbat Hagadol évidemment, mais je ne sais pas si on va rentrer dans Shabbat Hagadol également. On va d'abord se concentrer sur la paracha de Tzav. Alors, nous sommes rentrés dans le livre de Vayikra, évidemment, et ce livre de Vayikra, il est compliqué. Il est compliqué pour le lecteur, pour celui qui essaie de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'on n'a pas forcément une conscience aiguë, si vous voulez, de la notion des korbanot, que ce soit dans tout simplement dans la compréhension de c'est quoi les différents korbanot et à quoi ça sert tout ça. La semaine dernière, on a essayé d'expliquer quel était le secret derrière le moussag des korbanot. Cette semaine, quand on lit la paracha de Tzav, on ne peut pas s'empêcher de poser une question. La question est évidente. Qu'est-ce que cette paracha vient nous rajouter par rapport à la paracha de la semaine dernière? C'est pas bizarre, parce que quand on regarde, on a la même liste pratiquement de korbanot, on nous raconte les mêmes... Qu'est-ce que ça change? On n'aurait pas pu se satisfaire d'une seule paracha, Vayikra, quitte à la faire un tout petit peu plus longue, je sais pas moi, mettre les petits versets qui dérangent, qui changent par rapport à la paracha de Tzav. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux parachutes? On va y revenir à cette question-là. Mais avant cela, on va essayer de sortir les petites choses qui sont marquées dans notre paracha de Tzav qui n'étaient pas mentionnées dans la paracha de Vayikra. On parlait des korbanot évidemment dans Vayikra, mais la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est ce qui est mentionné dans la Torah, dans notre paracha, que le korban, une fois qu'on l'a fait, et je ne parle pas ici d'un korban hola, korban hola qui est directement emmené sur le misbéach et qui est brûlé entièrement sur le misbéach. Non, je parle ici d'un autre korban, de ce qu'on pourrait appeler korban chatat ou d'un korban shlamim particulièrement. C'est-à-dire un korban que moi je vais manger. Eh bien, j'ai pour le manger deux soirs et trois jours en fait, jusqu'à la fin de la troisième journée. J'ai trois jours pour le manger et je ne peux pas le manger plus. Lama. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le manger plus? Pourquoi est-ce que la Torah me dit les korbanot, il y a une deadline, une date limite à la consommation du korban? Eh bien, la raison est très simple. Vous savez, nous, dans notre génération, nous sommes la génération du frigo. La génération du frigo qui fait que je peux avoir déjà congelé mes plats, comme dirait ma mère, quand tu n'as pas la force de travailler, de préparer à manger, t'as qu'à te congeler un reste de Shabbat, et comme ça, la semaine prochaine, tu pourras le manger. C'est-à-dire qu'on est dans une génération où on a complètement oublié, alors, on est en train d'y revenir, avec la notion de cuisiner frais, de cuisiner, mais on est dans une génération qui a oublié ce que ça voulait dire d'être proche du produit. Nous, on met tout dans le frigo, et voilà, et on a des boîtes de conserve, machin. Kitsour, la nourriture se garde. Alors, c'est très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'ancien temps. C'est très bien, la nourriture se garde, mais on a oublié ce que ça voulait dire, la notion d'empressement, la notion de péremption. Date périmée, et un aliment, il peut être périmé dans 3 ans, quel rapport? Quand on va en Milouim, des fois à l'armée, des fois on nous sert des manottes craves, des rations de combat, avec dedans un truc qui s'appelle du louf. Déjà, rien que le nom, t'es pas serein. Et quand tu regardes, des fois, hein, c'est du louf qui a été fait pour la guerre de Kippour. Genre, je sais même pas si j'exagère. Ah, on a des aliments qui sont mis sous boîte et tout, machin, des trucs, mais laisse tomber, ça a été fait il y a 12 millions d'années. C'est-à-dire, le korban, c'est quoi le korban? Le korban, c'est la prise de conscience que Akadosh Baruch Hu, il est présent dans ta vie. Qu'il y a la possibilité, entre guillemets, de toucher du doigt le dévoilement de Dieu. Zé à korban. Maintenant, vous comprenez bien que cela, ça ne peut pas être du domaine du permanent. Alors, je me contredis, parce que je n'arrête pas de dire dans mes shiurim que l'objectif est d'arriver à une permanence de notre contact avec Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est l'objectif. Mais à l'époque de la Torah, on n'y est pas encore à cet objectif-là. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore à cet objectif-là? Parce que je vous rappelle que cette paracha, comme toutes les autres parachas de la Torah, sont dans le désert. Donc il ne peut pas y avoir un dévoilement direct du Créateur partout et tout le temps. Ça, ce sera la dimension du Beit HaMikdash Be'eretz Israël. Donc, dans le Mishkan, ce n'est pas encore le cas. Et donc, dans le Mishkan, on nous dit, « Teda lecha, plus de 3 jours, c'est une chazaka. » D'après la halakha, quand tu vas à plus de 3, c'est une chazaka. Et donc, la notion de 3 jours pour manger le korban, c'est que tu ne deviennes pas à penser que les rol bigdusha, c'est du domaine du normal, du anodin. Tant que tu es dans un monde où le Beit HaMikdash n'est pas encore une réalité palpable, tu dois comprendre que le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est l'itamet. Il faut travailler pour y arriver. Lorsque on aura réglé ce problème-là et qu'on pourra arriver au Beit HaMikdash, un troisième Beit HaMikdash qui ne sera jamais détruit, à ce moment-là, alors la notion de permanence du contact avec le Créateur reprendra tout son sens. Donc c'est la première dimension, comprendre que le lien avec Akadosh Baruch Hu demande du temps. Les amis, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on essaye de trouver d'autres éléments qui différencient cette paracha de la paracha d'avant. Et il y a un autre élément qui a été passé comme ça, comme une lettre à la poste, qu'on n'avait pas du tout pris le temps de regarder, et on voit en fait qu'il y a une grande, grande, grande différence. D'après la paracha de Vayikra, tout, même dans le Korban Ola, enfin surtout dans le Korban Ola, tout est emmené vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans la paracha de Vayikra, on a l'impression que Korban Ola, on prend toute la bête, on le met sur le Mizbeach, Veyallah, et tout est brûlé, tout remonte vers Dieu. Quand on lit en profondeur les versets de la paracha de Tzav, eh bien on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ben non. Il y a une partie de l'animal, même dans le Korban Ola, qui ne peut pas la halot. Et c'est quoi cette partie-là? Ce sont les peaux. La peau de l'animal, eh bien, n'est pas amenée sur le misbéar. Bon, d'abord, il y a une raison purement environnementale. Faire brûler la peau, ça pue. C'est-à-dire, bon, ça, c'est une première chose. Mais il y a quelque chose de quand même beaucoup plus profond derrière tout ça, il va falloir essayer de comprendre. Dans notre monde, il y a des choses qui font écran, qui nous empêchent d'être en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Ces écrans-là peuvent être soit positifs, soit négatifs. Comparons quelque chose de pas comparable. Disons qu'Akadosh Baruch Hu est semblable au soleil. Chas v'shalom, on n'est pas en train de faire de l'idolâtrie, nanana. Juste une histoire de comparaison, les Havdil, évidemment, les Havdil. Eh bien, de la même façon qu'on ne peut pas ne pas vivre, on ne peut pas vivre sans le soleil. On ne peut pas. On a besoin, on a besoin de sa chaleur, de sa lumière. On a besoin du soleil à tout instant. On ne pourrait pas vivre sans. D'un autre côté, on ne peut pas être en contact direct avec le soleil. On a besoin d'écran total. On a besoin de lunettes de soleil. Vous savez, quand il y a une éclipse de soleil, la tendance des gens, c'est de sortir et de regarder avec l'éclipse. On n'a pas le droit, c'est très dangereux de regarder l'éclipse sans protection. Parce que lorsque les rayons du soleil, les premiers, vont sortir, tu vas les prendre directement dans les yeux, ça peut te brûler les yeux. Donc, Bekitsour, on a besoin de protection, d'écran. Il y a un écran. Il y a un écran, pour nous, qui fait écran tant à l'entrée du dévoilement divin qu'à sa réverbération, si vous voulez. Car en moi, il y a une partie qui est capable de recevoir le dévoilement de Dieu. Cette partie, vous la connaissez, elle s'appelle Maneshama. Vadaï, Maneshama. Maneshama, c'est Chelek Elohim Imal. Alors, disait le rabbi de Lubavitch, Chelek Elohim Imal, Mamash. Seulement, comprenons bien, la Neshama n'est pas une partie de Dieu. Tout le monde nous dit qu'on a une partie divine en nous, que la Neshama, c'est une partie de Dieu. On n'a pas le droit de dire un truc comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on coupe en parties. Et puis, si tu me dis que la Neshama, c'est une partie de Dieu, combien ça fait une partie de l'infini? Ben, c'est toujours l'infini. Donc, ça laisse à penser que moi, je suis infini. Donc, une partie de Dieu, c'est l'infinité de Dieu. Donc, je suis un peu Dieu, moi. Enfin, je suis Dieu. Donc, pourquoi tu ne te prosternes pas devant moi? Non, ne le faites pas. Hein, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que ça veut dire que la Neshama, c'est Chelek Elohim Imal? C'est bien mettre Chelek Elohim Imal, mais il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Chelek Batorah, c'est une partie, c'est un héritage. C'est là où je vais pouvoir m'exprimer. On a Chelek Venachala. chaque tribu d'Israël avait Chelko. C'est-à-dire, c'est là où il peut s'exprimer. En d'autres termes, quel est l'endroit dans le corps humain, dans l'homme, où Dieu peut s'exprimer? Ben, Neshama. Ok? Donc, la Neshama n'est pas une partie de Dieu, c'est la part de l'homme dans laquelle Dieu se dévoile. Maintenant, c'est très bien. Mais sauf qu'il n'y a pas que la Neshama dans l'homme, il y a également le corps de l'homme. Et quand je dis le corps de l'homme, j'y mets dedans mes doigts, j'y mets mes yeux, j'y mets mon cœur, j'y mets ma tête, mon cerveau, mon intellect. Tout ça, c'est le corps de l'homme. Admor HaZaken, le premier rabbi de Chabad, a très bien clarifié la chose, puisqu'il nous a dit qu'il y en a un qui s'appelle An-Nefesh HaElohit, et l'autre, il l'appelle la Nefesh HaBehemit. Yetzer HaTov, Yetzer HaRa. Notre corps fait donc écran en tant que Nefesh Behemit au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Cet écran peut être, comme on l'a dit, positif, comme des lunettes de soleil face au soleil, comme de l'écran total pour ne pas se brûler. Nachon, ils peuvent être très positifs, mais ils peuvent être également négatifs. Parce que si mon écran devient opaque complètement, si je me mets une combinaison qui ne laisse pas passer du tout la lumière du soleil ni sa chaleur, eh bien, je deviens quelqu'un qui va manquer énormément de vitamine D. Je deviens quelqu'un qui va faire une dépression due au rayonnement. J'ai besoin de laisser passer quelque chose. Je peux utiliser mon corps comme un écran total, 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 ou je peux utiliser mon corps comme étant ce qui va permettre de prendre des choses et d'en ressortir d'autres. La peau, c'est un écran. À toi de décider si cet écran va être un écran opaque ou translucide, qui va laisser passer les bonnes choses et va laisser à l'extérieur les mauvaises. Vous savez, lorsque Adam et Chava sortent du Gan Eden pour faire face à ce monde, au Gan Eden c'était des Neshamot, maintenant ils sortent du Gan Eden, ils ont besoin d'un corps pour accueillir la Neshama, Akadosh Baruch Hu leur fait un corps. Vayas Hashem Elohim la Adam ou la Ishto kutnot or vayal bishem. Il leur a fait des tuniques de peau. Le corps. Nachon. Mais Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir nous dit que dans son Sefer Torah, il y avait marqué kutnot or avec un aleph. Pas des tuniques de peau, mais bien et bien des tuniques de lumière. Est-ce que ton corps, c'est quelque chose qui est capable de ne pas laisser passer le dévoilement de Dieu? Ou est-ce que c'est quelque part quelque chose qui te permet de dévoiler à Kadosh Baruch Hu? En fait, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tout simplement. Et oui, c'est de cela qu'on parle. Vous savez, lorsqu'on parle de peau, manque de peau, il y a un moment où la peau devient très intéressante. La peau de tous ces animaux, à quoi sert-elle dans la halakha? D'après le judaïsme, je vous ai dit, on ne peut pas utiliser ces peaux-là. Ces peaux-là reviennent au Kohen. Mais il va en faire quoi? Il peut se faire un manteau, il peut se faire un sac, il peut se faire des chaussures. Nous. Mais il peut en faire quoi également, surtout? Tchilin, Mezuzot, Sefer Torah. En d'autres termes, à toi de décider si la peau de ton animal que tu as amené en Korban va te servir à te faire un sac ou va te servir à faire un Sefer Torah. C'est à toi de décider. Il y a un sefer extraordinaire qui s'appelle Perek Shira. Perek Shira, c'est un tout petit livre qui a été écrit par David HaMelech lui-même, qui d'après la Masoret Israël, après avoir terminé Tehilim, il a reçu un bonus de Ruach HaKodesh. Et dans ce bonus de Ruach HaKodesh, eh bien, il y a écrit Perek Shira. Perek Shira, c'est quoi? Eh bien, c'est le chant de toute la création. Toute la création. Toute la création vient chanter, en fait, vient expliquer au monde qu'est-ce que ça fait que Akadosh Baruch Hu l'a créé. Extraordinaire. Et à la fin du Perek Shira, on a un rabbin qui ne comprend pas. Rabbi Hoshaya, il a un grand problème. Il dit, je ne comprends pas comment ça se fait que les chiens ont mérité de rentrer dans le Perek Shira. Alors, effectivement, les derniers à faire la chanson dans le Perek Vav, dans le dernier, les dernières créatures à chanter, ce sont les chiens. Et Maïm Omrim, Klavim Omrim, Bon nishtachave venichra nivracha lifnei Hashem Elohim. Venez, prosternons-nous devant Dieu. Rabbi Yoshaï, pourquoi est-ce qu'il a un problème? Il dit, je ne comprends pas comment les clavim, les chiens, peuvent-ils avoir le mérite de dire la Shira? Arrête d'après le livre de Yirmiyahu Hanavi, clavim azen nefesh, ce sont des chutzpanim, loyadu sova. Mais même ce sont des chutzpanim, les clavim. Ils voient un homme marcher à côté d'eux, qui est créé Betzelem Elohim, et ils aboient, et ils disent, ruf, ça va bien, oui. Pour qui tu te prends, monsieur chien? Seulement, la Torah nous dit, dans le Perek Shira, qu'il y a un malach qui est venu répondre à Rabbi Hoshaya, Talmido shel Rabbi Hanina ben Dosa. Le malach, il lui dit, comme ton maître, Rabbi Hanina ben Dosa, c'était un mec génial, que j'ai kiffé, bah, pour lui, je suis venu te répondre. Sache que les clavim, ils ont un grand mérite. C'est quoi? Ils en ont deux. Que le premier, c'est que lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas aboyé. Ouais, V. Non, pas V. C'est quelque chose de très terriblement fondamental. Deuxièmement, c'est quoi? C'est qu'avec les excréments des chiens, on assèche les peaux pour faire les téphilines, les autres sefer Torah. C'est comme ça que était le processus d'assèchement des peaux à l'époque, avec les excréments des chiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très très importante. Que même la chose la plus lointaine, les excréments des chutzpanim que sont les chiens, tu peux décider qu'elles vont t'aider. T'aider à quoi? À servir au dévoilement. À servir à la volonté d'Akadosh Baruch. Tout dépend de toi. Donc, la peau qui fait écran, qu'on rencontre dans le Sefer Vayikra, dans la paracha de Tzav, dans notre paracha, eh bien, à toi de décider si cette peau sera un écran qui ne permettra pas à Kadosh Baruch Hu de rentrer, ou au contraire, sera ce qui va te permettre de le dévoiler encore mieux. Machenikra, la balle est dans ton camp. Et c'est de cela qu'on parle. La paracha de Tzav est fondamentalement différente à la paracha de Vayikra. Pourquoi? Vous savez, d'après la Torah, tout simplement, on va pas chercher midi à 14h, mais d'après la Torah, lorsqu'on regarde au verset, excusez-moi, je le prends, lorsqu'on prend le verset Lametret, qui, le verset Lametret du Perek Zayin, donc de la paracha de Tzav, on nous dit, je cite le verset, Asher tziva Hashem et Moshe behar Sinai, beyom tzavoto et bene Israël, la'akriv et korbenehem, la'Hashem bamidbar Sinai. On nous dit ici que la paracha de Tzav a été donnée au Har Sinaï. Donc, chronologiquement, avant la paracha de Vayikra. Pourquoi elle est mentionnée après alors? Rabbi David Zvi Hoffman vient de donner une explication incroyable. Il dit que la paracha de Tzav, en fait, a été donnée juste après la paracha de Tetzavé. C'est pour ça qu'il y a une corrélation évidente dans le nom des deux parachiotes. Tzav vient après Tetzavé. Il nous dit donc, tu peux également relier, si Tetzavé est relié à Tzav, eh bien tu peux relier Trouma à Vayikra. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire ce que ça veut dire. La question de pourquoi il y a eu Tzav, Vayikra et Tzav, on pourrait se poser la même question avec pourquoi il y a eu Trouma et Tetzavé. Eh bien la réponse est très simple. Trouma et Tetzavé sont deux versions différentes du Mishkan, du Beth Amikdash, de notre relation à Dieu. Deux versions différentes. C'est quoi ces deux versions différentes? Dans la version de Terouma, il n'y a pas justement d'écran. Tu lis la paracha de Terouma, tu peux penser que chaque juif, quand il veut, peut rentrer au Kodesh HaKodashim. On nous parle de la Menorah, du Mizbeach HaKtoret, du Mizbeach HaOla, de la Shulchan et du Aaron Abrit. On ne te parle rien d'autre. On ne te parle pas d'écran ou de gens particuliers. Il n'y a pas de parochet, il n'y a pas de tu n'iras là-bas que Ayom Akipurim, et il n'y a pas de Kohanim qui font écran entre moi et Kadosh Baruch. Alors que dans la paracha de Tetzavé, on nous parle de parochet, on nous parle de Kohanim, on nous parle qu'il faut rentrer qu'une fois par an et que les Kohanim doivent être habillés d'une certaine façon. La paracha de Terouma, on y voit la personnalité de Moshe. Elle est mentionnée dans la paracha. Alors que dans la paracha de Tetzavé, ben Moshe n'apparaît pas. Le nom de Aaron apparaît dans Tetzavé, mais pas celui de Moshe. En d'autres termes, il y a deux versions du Mishkan, celui de Moshe ou celui de Aaron. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, Moshe, il est total. Moshe, on ne faute pas avec Moshe. Moshe, il y a des mitzvot, il y a des halachot, on fait la mitzvah, on fait la halacha, point. Et celui qui faute, j'ai envie de te dire, boum, trach. Lorsque Moshe descend du Har Sinaï avec le luchot et qu'il voit le veau d'or, il se prend pas la tête. Boum, on tue tout le monde. Aaron, quant à lui, c'est beaucoup plus pragmatique. Aaron, quand il voit les gens qui veulent faire le veau d'or, il dit, bon, ben, je vais vous aider à faire, mais sans faire trop de problèmes. C'est-à-dire qu'Aaron est beaucoup plus pragmatique. Il est tout à fait conscient que des fois l'homme faute. On va pas le tuer pour ça, mais on va l'aider à s'en sortir. Il y a l'idéal de Moshe, l'homme ne faute pas, et il y a la réalité de Aaron, l'homme faute, alors venez, on corrige. C'est la paracha de Terouma et la paracha de Tetzavé. Le Mishkan de Terouma, le Mishkan de Tetzavé. Dans notre paracha de Vaïkra et de Tzav, on y voit les korbanot, les mêmes sortes de korbanot, seulement dans un ordre différent. Dans la paracha de Vaïkra, on a mis d'abord en avant les korbanot de Ola, Mincha, Shlamim. Ola, Mincha, Shlamim sont des korbanot d'idéal. C'est pas parce que j'ai fait une faute. Parce que la paracha de Vaïkra est à mettre en relation avec celle de Terouma, c'est-à-dire on ne faute pas. Donc ma relation avec Akadosh Baruch Hu et Bet HaMikdash est une relation saine, bonne, une relation de Kdusha et de Kirouv, de rapprochement entre le Créateur et la créature. Et c'est pour ça que dans la paracha de Vaïkra, les korbanot de Khatat sont relégués à la fin de la paracha. La paracha de Tzav, c'est tout l'inverse. Dans la paracha de Tzav, on commence par les korbanot Khatat Hasham, par les korbanot qui viennent expier des fautes. À la fin de la paracha, on nous parlera de nouveau des korban Ola, Mincha, Shlamim, Toda. Mais on les met à la fin parce que dans la paracha de Tzav, on comprend que l'homme y faute. Donc puisque l'homme y faute, eh ben, il va falloir les chaper. Comme on a dit dans le shiur d'hier, sur la Gala de Pessah, c'est la différence dans le Dayenu entre la première liste des choses qui nous amènent Banalano et Bet Amikdash, et la deuxième fois où on reprend toute la liste, on dit Banalano et Bet Amikdash, le Chaper à la Vonotenu. Est-ce que le Bet Amikdash sert à nous rapprocher de Dieu ou sert à expier les fautes? C'est ce qu'on peut trouver dans le premier verset de la paracha de Pekoudé. On dit Elle Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Pourquoi est-ce qu'il y a deux Mishkan? Elle Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. On n'aurait pas pu se satisfaire en disant Elle Pekoudé, Mishkan à Edout. Voici le compte-rendu du Mishkan, le Mishkan du témoignage. On n'aurait pas pu dire Voici le compte-rendu du Mishkan du témoignage. Parce qu'il y a soit le Mishkan, version Moshe, soit le Mishkan du témoignage. Version Aaron. Le Mishkan de Moshe, dans l'idéal, on n'a pas besoin de faire un compte-rendu de tout ce que les Israël ont amené pour dire, voilà, on a fait avec ça, on a fait ça, avec ça, on a fait ça, avec ça, on a fait ça. Parce que c'est l'idéal, et les gens, ils savent qu'on est tous de bonne foi et qu'on ne faute pas. Mais dans le Mishkan de Aaron, les gens sont un petit peu sceptiques. J'ai donné 12 kilos d'or. Et j'ai vu qu'il y a des statues ou des poteaux ou ce que tu veux, qui combine 11 kilos d'or. Où est le dernier kilo? Peut-être que M. Cohen a pris ça dans sa poche. Ah, non, alors je te fais un compte-rendu et je te dis, non, le dernier kilo, il a été fait pour utiliser à faire Shulchan Nechem Apani. Ah, bon, d'accord. C'est parce qu'on a cette suspicion qu'on se sent obligé de faire le compte-rendu. Eh bien, c'est ça la différence entre la paracha de Tzav et la paracha de Vaïkra. Vaïkra était une paracha de l'idéal, à mettre en relation avec Terouma et Moshe. La paracha de Tetzavé est une paracha de la réalité. à mettre en relation avec de Tzav, la parasha de Tzav et la parasha de la réalité, à mettre en relation, comme j'ai dit, avec la parasha de Tetzavé et de Aaron. On a donc besoin de ces deux dimensions-là pour réussir à réaliser, à faire descendre la présence d'Akadosh Baruch Hu ici. À la fin de la parasha de Tzav, on va donner les directives. Les directives à Aaron pour bien réaliser son boulot au Beth Amikdash, au Mishkan. Le dernier verset de la parasha, les deux derniers versets de la parasha sont très bizarres. On dit « Upetach ohel moed teshevu yomam valayla shivat yamim ushmartem et mishmeret Hashem velotemutu ki chen suveti » Moshe vient de former Aaron et ses enfants Moshe vient de former Aaron et ses enfants au service de Kohen, de Kehuna. Et il leur dit, et vous ne sortirez pas pendant 7 jours avant de pouvoir sortir le 8e jour et de faire l'inauguration du Mishkan. Ça ne peut pas ne pas nous rappeler la halakha qui est mentionnée dans la Mishnah dans Maseret Yoma, que lorsqu'on prépare le Kohen Gadol à son boulot au Kodesh HaKodashim, à Yom Kippour, eh bien, 7 jours avant, on le prépare. Et il n'a pas le droit de sortir de sa résidence secondaire de préparation. C'est de cela qu'on parle. Aaron doit préparer, se préparer à la réussite des 7 jours. À la préparation des 7 jours. Je suis un petit peu truc parce que j'entends derrière moi que y a un truc qui est tombé sur la tête de ma fille. Mais en entendant les pleurs, vous savez, on reconnaît les différents pleurs. On reconnaît un pleur de « j'ai mal, mais pas trop mal, mais j'ai envie qu'on s'intéresse à moi » et « vaut mieux m'emmener aux urgences ». Là, c'est un pleur « j'ai mal, mais pas trop », donc ça va. Ça devrait aller. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Que Aaron est resté Shivat Yamim. Le projet du Mikdash, du Mishkan et du Mikdash 1 et 2 jusqu'à celui qu'on va reconstruire, c'est de terminer Shivat Yamim. Comme vous le savez, il y a eu 6 jours de création qui ont été terminés, puisque dans chaque jour de la création, on termine par un verset qui dit « Vayi erev, vayi voker, yom x, yom chad, yom sheni, shishi, rvi, ramji, machishi. » Donc, si vous voulez, les 6 jours de la création sont terminés. Le 7e, par contre, qui a commencé, eh bien, on n'a pas marqué dans la Torah « Vayi erev, vayi voker, yom hashevi ». Cela veut dire tout simplement que nous sommes toujours dans le 7e jour. L'objectif du Ham Israël et du monde, de l'humanité, dans ce 7e jour, c'est de parfaire la création pour terminer ce 7e jour. Et une fois qu'on termine ce 7e jour, alors on peut rentrer dans le début de notre paracha de la semaine prochaine qui nous dit « Vayehi bayom hashemini » qui nous permet de revoir un monde chez Oumein, Yom Hashemini, chez Oumein, Olam Abba, chez Yom, chez Kulo Shabbat. C'est à cela qu'on atteindra, qu'on y arrivera lorsqu'on reconstruira le Beth Amikdash. Qui sait, soit d'ici une semaine, pour pouvoir déjà faire le Korban Pessah, sortir du confinement et venir faire Shabbat, Pessah, à Jérusalem. Et si on n'y arrive pas cette année, alors Bezrat Hashem l'année prochaine. Kenny Ratson, Shabbat Shalom à tout le monde.